With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Quand j'étais au lycée, la seule fois où on m'a parlé de contraception, c'était pendant un cours d'SVT. Ma professeure a distribué un polycopier de 2 pages avec un tableau qui répertoriait toutes les contraceptions existantes. On a peut-être pris 20 secondes pour parler de chacune d'elles, et encore. On a surtout parlé de la pilule et du préservatif, et le reste, zéro. Et pourtant, quand on est jeune et qu'on veut choisir sa contraception, il existe d'autres alternatives. L'une d'elles, c'est le stérilet, et c'est le sujet de notre podcast d'aujourd'hui. Je suis Jeanne Serrin et vous écoutez un nouvel épisode de Minute Papillon. Le stérilet, ou le DIU, pour dispositif intra-utérin, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un petit dispositif en forme de T qu'on place dans l'utérus. Il en existe 2 types. Le premier, c'est le stérilet en cuivre. On le connaît surtout parce que c'est une méthode de contraception sans hormones. Le corps du stérilet est recouvert d'un fil de cuivre et c'est ce qui rend impropre à l'anidation l'utérus dans lequel il est. Le second, lui, est hormonal, c'est celui à la progestérone. Là, le corps du stérilet contient un petit réservoir qui dépose de la progestérone localement, et c'est ce qui empêche la grossesse. Pendant longtemps, cette contraception a été réservée aux femmes qui avaient déjà eu des enfants. Et même dans les faits aujourd'hui, c'est encore un peu le cas. D'après le baromètre santé qu'a établi Santé publique France en 2016, le DIU concerne moins de 5% des femmes qui ont entre 20 et 24 ans. Pourtant, depuis 2005, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'indique strictement aucune contre-indication pour les femmes sans enfants à porter un stérilet. On va donc essayer de comprendre pourquoi cette méthode de contraception a longtemps été déconseillée aux femmes qui n'ont pas d'enfants, et on va essayer de démystifier un peu tout ce qui est associé au stérilet. Pour avoir des réponses à toutes mes questions, j'ai appelé Marie Binck, elle est médecin généraliste à Paris. Bonjour Marie Binck.
Bonjour.
J'ai cité un peu plus tôt le baromètre de Santé publique France, et dans ce baromètre, on apprend que de plus en plus de jeunes femmes se détournent de la pilule comme méthode de contraception pour choisir le stérilet. C'est une tendance qui existe et qui s'accentue d'année en année. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi en cabinet et comment vous l'expliquez ?
Alors oui, c'est quelque chose qu'on observe en consultation, nous aussi. Alors c'est vrai que pendant longtemps on disait aux jeunes femmes que le stérilet n'était pas une option pour elles, alors qu'on est revenu là-dessus, donc c'est devenu une option parmi d'autres. Donc c'est un élément explicatif. Un deuxième élément explicatif, c'est que la pilule a très mauvaise presse maintenant, je pense pour des mauvaises raisons, mais je pense que ces deux moyens de contraception, on a mal informé les gens pendant longtemps dessus, et du coup voilà, c'est un peu un effet boomerang.
Pendant longtemps, il y a eu des idées qui ont circulé autour du stérilet, un peu dissuasives, comme quoi le stérilet rendrait stérile, provoquerait des grossesses extra-utérines, ou bien augmenterait le risque d'avoir des infections sexuellement transmissibles. Est-ce que c'est des idées qui circulent toujours ?
Alors, c'est pas complètement des mythes, c'est-à-dire qu'il y a un fond de vrai sous-jacent, mais c'est pas quelque chose qui empêche de poser les stérilets chez les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. La méthode d'action du stérilet, il a 2 méthodes d'action, que ce soit un stérilet au cuivre ou un stérilet aux hormones. Globalement, le premier effet, c'est qu'il va limiter la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, alors de différentes façons en fonction du modèle de stérilet, mais peu importe. Et après, si jamais un spermatozoïde a réussi à aller rencontrer l'ovule, l'action locale du stérilet au niveau de l'utérus va limiter le développement de la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a eu la fécondation, mais ça va empêcher le développement de la grossesse. Du coup, à cause de ce double mécanisme d'action, quand on regarde les grossesses sous stérilet, qui sont rares mais qui existent, la proportion de grossesses extra-utérines est un peu supérieure avec un stérilet que la proportion des grossesses extra-utérines d'une manière générale, sans contraception ou avec un autre moyen de contraception. Le pourcentage est un petit peu supérieur, mais en valeur absolue, ça reste des trucs qui sont extrêmement rares. Pour donner peut-être un comparatif qui parle, il n'y a pas plus de grossesse extra-utérine quand on a une contraception par stérilet que si on utilisait des préservatifs comme moyen de contraception. Parce que le préservatif est moins efficace à la base, en fait. Donc ça veut dire que ce qu'on va dire aux femmes qui vont poser un stérilet, c'est qu'il va falloir qu'elles fassent quand même attention à la régularité de leur cycle. Et s'il y a un retard de règles, qu'elles fassent un test de grossesse de principe pour pas passer à côté d'une grossesse sous stérilet, en fait.
Mais finalement, pourquoi on a longtemps déconseillé aux femmes qui n'avaient pas d'enfants d'avoir un stérilet ?
Alors, il y avait cette raison-là, du risque de grossesse extra-utérine qui faisait peur. Mais donc, quelque part, on voulait préserver la fertilité des jeunes filles pour elles. Et l'autre raison, c'est, vous évoquiez les risques d'infection sexuellement transmissible par rapport au stérilet. Alors, il n'y a pas plus d'infection quand on a un stérilet que quand on n'en a pas. Mais par contre, le stérilet, c'est un corps étranger. Donc, vous augmentez un petit peu le risque que l'infection, elle, au lieu d'avoir un chlamydia ou un gonocoque juste au niveau de votre vagin, que ça augmente le risque que l'infection, elle remonte et que ça donne une infection sexuelle haute, une salpingite, une infection de l'utérus.
On fait juste une petite pause dans l'interview pour expliquer ce qu'on vient d'entendre. Trois mots un peu compliqués qu'on va détailler. D'abord, un chlamydia et un gonocoque, ce sont deux types de bactéries qui peuvent entraîner des infections et qui se transmettent pendant des rapports sexuels, avec ou sans pénétration, on le rappelle. Quant à la salpingite, c'est une infection des trompes utérines, qu'on appelle aussi les trompes de Fallope, et qui est généralement causée par une IST. On reprend.
Maintenant, on fait des dépistages systématiques du chlamydia et du gonocoque avant la pose des stérilets. Ce qu'on ne pouvait pas faire historiquement, en fait, tout bêtement. Du coup, on limite beaucoup le risque de pouvoir faire remonter la bactérie plus haute. Et puis, on informe les femmes que quand elles changent de partenaire, parmi les dépistages des maladies sexuellement transmissibles qu'elles doivent faire, elles doivent bien penser à dépister ça aussi, qui fait partie du dépistage banal, standard maintenant de toutes les IST, mais ce qui n'était pas le cas historiquement, en fait. Quelque part, on disait bah, non aux femmes qui n'ont jamais eu d'enfants parce qu'elles sont encore à risque plus qu'une femme qui aurait déjà eu des enfants, qui aurait une vie rangée, d'être en contact avec ces bactéries et de risquer ces infections hautes. Mais finalement, enfin, c'était parce que les moyens de dépistage étaient peut-être pas les mêmes. Et puis, encore une fois, on prenait la décision à la place des femmes sans leur demander leur avis, sans les informer, sans leur demander leur avis.
Et puis, il y avait aussi le fait qu'avant, les stérilets n'avaient pas la bonne taille, la taille adaptée pour des femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Aujourd'hui, il existe d'autres types de stérilets.
Oui, c'est vrai. Maintenant, ils ont été faits, des stérilets, que ce soit des stérilets au cuivre ou aux hormones, qui sont un tout petit peu plus petits que les stérilets historiques et que du coup on peut plus facilement mettre chez les femmes nullipares qui n'ont jamais eu d'enfants parce qu'elles ont un utérus qui est aussi un peu plus petit comme elles n'ont pas porté d'enfants.
J'aimerais vous faire écouter l'avis d'une gynécologue, Marie-Claude Bénatar, que j'ai interrogée sur cette question justement, sur l'idée que le stérilet ne serait pas forcément adapté aux nullipares. Écoutez.
Quand on est très jeune, quand on démarre sa vie, quand on a 19-20 ans, croyez-moi, c'est une épreuve cette pose de stérilet, même si elle se fait en cabinet. Il faut qu'on mette des pinces, il faut qu'on redresse à l'aide d'une pince l'utérus. L'utérus, il n'est pas vertical comme nous. Vous voyez, nous, on est en position debout, on est vertical. L'utérus, lui, non. Il n'est pas dans la verticale. L'utérus, son corps, est soit en avant, soit en arrière autour du col. Et pour qu'on pose un stérilet, eh ben, il faut tirer avec une pince sur le col. Donc, c'était pas un mal de dire que après le premier enfant, une femme qui a eu déjà des enfants, elle s'est habituée à son corps. Elle s'est habituée à voir des médecins, gynécologues, obstétriciens. Les jeunes filles de 19 ans, 20, 21, elles ne se connaissent pas. Donc oui, c'était moins difficile. Parce qu'elles ont eu un enfant, elles ont accouché, elles se connaissent. Et puis surtout, le col de l'utérus, grâce à l'accouchement, il s'était dilaté. Parce que vous savez, moi, je pose des stérilets à des nullipares, c'est-à-dire à des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Eh bien, c'est une épreuve. Parce que le col de l'utérus, c'est quelque chose de très innervé, de très sensible. Et parfois, juste avec la peur, ses réflexes, elles ne font pas exprès. Le col se spasme et se ferme et nous empêche de poser le stérilet.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Marie-Claude Benatar?
Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, hein, c'est plus compliqué de poser un stérilet chez une femme qui a jamais eu d'enfant que chez une femme qu'on a déjà eu. Effectivement, c'est plus difficile de passer le col, un peu plus difficile de passer le col de l'utérus techniquement. Après, du coup, on donne, en fait, avant la pose, on donne systématiquement des médicaments pour la douleur, pour limiter le côté douloureux et inconfortable pour les femmes. C'est aussi important que la femme, elle soit bien informée de ce qui va se passer, qu'elle soit en confiance, qu'elle soit un peu détendue, parce que c'est toujours plus facile dans ces cas-là. Et puis, le côté douloureux, gênant, ça va pas faire mal pendant des heures, en fait. C'est au moment où on passe, c'est au moment où le stérilet s'ouvre. Effectivement, il peut y avoir des contractions de l'utérus qui peuvent être douloureuses, comme des douleurs de règles, en fait. C'est exactement le même principe. Et du coup, si on a mis les médicaments pour la douleur, si on a bien expliqué à la femme, globalement, ça se passe bien. Moi, là, on pose souvent hein, des stérilets à des nullipares. C'est le commentaire le plus fréquent, c'est ça fait beaucoup moins mal que ce que j'avais imaginé. En général, c'est ça la réponse.
Et sur le fait que la pose du stérilet soit intrusive, qu'elle peut être vécue un peu violemment pour des femmes qui n'ont jamais vu de gynécologue, pour qui c'est leur première consultation ou qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, qui ne le connaissent pas, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Ça, j'allais dire, quel que soit le profil de la femme, c'est toujours des examens qui sont particuliers, donc qui peuvent être pas bien vécus, qu'elle ait vu plein d'obstétriciens ou pas dans sa vie. Je pense que ça reste un truc pour lequel il faut prendre le temps de bien expliquer, de mettre en confiance, expliquer ce qu'on va faire surtout avant de le faire, ce qu'on va ressentir avant qu'on ressente tout ce que ça peut faire, de demander l'autorisation, des choses un peu évidentes, mais qui sont peut-être pas toujours si évidente en fait. Alors, moi, je ferais pas de différence, quelle que soit la femme et quel que soit son passé en fait. C'est sûr que si c'est la première fois qu'il y a un examen gynécologique, on va pouvoir proposer aux jeunes femmes d'essayer de mettre un spéculum déjà avant, si elles le souhaitent. Hein. Il y en a qui sont très très à l'aise et qui n'ont pas du tout besoin de ça, mais il y en a, on va peut-être faire un examen gynéco juste pour voir avant que lui, on va poser le stérilet.
Alors Marie-Claude Benatar, elle pose des stérilets à des nullipares, hein, elle n'est pas du tout opposée, mais il y a des médecins qui le sont. On lit d'ailleurs des témoignages de femmes qui se voient refuser la pose d'un stérilet par un gynéco parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Pourquoi, selon vous, il existe toujours cette réticence de la part des professionnels à poser des stérilets à ces femmes-là ?
Je pense qu'il y a un côté quand même un peu générationnel, il faut le dire, de médecins qui sont restés sur ces angoisses hein, par rapport au risque de grossesse extra-utérine, par rapport au risque de salpingite, et que du coup ils veulent pas faire courir ces risques à leurs patientes, donc ce côté un peu paternaliste quoi. Alors que une fois qu'elle est informée, si elle a un retard de règles, elle va faire son test de grossesse, elle va faire les dépistages qui vont bien et chaque moyen de contraception, quel qu'il soit, a des avantages et des inconvénients. Et donc c'est important d'expliquer aux femmes, avant qu'elles fassent leur choix, les avantages et les inconvénients de leurs moyens de contraception. Donc ça, c'est valable pour le stérilet, mais c'est valable aussi pour la pilule. C'est peut-être ce qui avait manqué aussi historiquement.
Stérilet ou pas stérilet, dans tous les cas, le maître mot, c'est la communication. Si vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas à l'aise pendant un examen ou une consultation gynécologique, parlez-en avec votre gynécologue. Et d'ailleurs, pas qu'à votre gynécologue, un stérilet peut aussi être posé par un médecin généraliste ou par une sage-femme. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.